Chapitre 4. Toc, toc, toc. Et en même temps, dans l'entrebâillement de la porte, une petite capote de loutre se montra, puis deux yeux souriants, sous une voilette, puis un long manteau de fourrure qui dessinait un corps mince de jeune femme. « Je ne vous dérange pas, on peut entrer. » Le peintre lira, leva la tête. « Ah, c'est vous, madame, » dit-il d'un ton bref, presque irrité, en secouant ses mains salies de pastel. « Mais oui, certainement, entrez donc. » Il quitta son chevalet, offrit un siège. « Charles va bien ?» demanda-t-il. « Très bien, je vous remercie. » Elle s'assit, toujours souriante, et son sourire vraiment était charmant et triste. Quoique voilée de gaze, ses yeux clairs d'un bleu rose, ses yeux très grands qui illuminaient toutes, me parurent d'une douceur infinie. Elle était mise fort élégamment, sans recherche prétentieuse. Un peu trop parfumée pourtant, il y eut un moment de silence. L'atelier du peintre Lyra, situé dans une cité tranquille du faubourg Saint-Honoré, la cité Rodrigue, était une vaste pièce nue, aux murs gris, aux charpentes visibles, sans meubles. Lyra l'appelait familièrement « mon hangar ». Un hangar, en effet, où la bise soufflait, où la pluie tombait du toit par de petites crevasses. Deux longues tables en bois blanc supportaient des boîtes de pastel, des cahiers, des blocs, des manches d'éventail, des albums japonais, des moulages, un fouillis d'objets inutiles et bizarres. Près d'une armoire bibliothèque tapissée de vieux journaux, dans un coin, beaucoup de cartons, de toiles, d'études qui montraient le châssis. Un divan fort délabré, rendant des sons de piano désaccordés dès qu'on faisait mine de s'y asseoir, deux fauteuils bancroches, une glace sans cadre, constituaient le seul luxe de l'atelier, qu'un jour très vibrant éclairait. L'hiver, quand il avait modèle, Lyra allumait son petit poêle de fonte, dont le tuyau coupé d'angles brusques, maintenu par des fils de fer et couvert de rouille, zigzaguait au milieu de la pièce, avant de se perdre par un trou trop large dans le toit. Hormis ces jours-là, même par les plus grands froids, il remplaçait le feu du poêle par une vieille pelisse d'astrakhan, usée, pelée, galeuse, qu'il endossait chaque fois avec une ostentation manifeste. Lyra avait la vanité, une vanité enfantine, de cet atelier pauvre, et il séparait de sa nudité, comme les autres peintres de leurs peluches brodées et de leurs tapisseries invariablement historiques. Même il l'eût désiré plus misérable encore. Il en voulait au plancher de n'être pas en terre battue. C'est à mon atelier que je reconnais les vrais amis, disait-il souvent. Ceux-ci reviennent, les autres ne reviennent pas, c'est très commode. Il en revenait fort peu. La jeune femme était joliment assise sur sa chaise, le buste à peine incliné en avant, les mains enfouies dans son manchon. De temps en temps, elle retirait un mouchoir brodé, qu'elle portait d'un geste lent à sa bouche, que je ne voyais pas à cause de la bordure plus épaisse de la voilette qui la cachait, mais que je devinais très belle, très rouge, d'une courbe exquise. De toute sa personne élégante et fine, d'où, malgré le sourire qui la rendait si séduisante, se dégageait un grand air de décence et même de hauteur, je ne distinguais bien que ses admirables yeux, qui se posait sur les objets comme des rayons d'astre, et je suivais ce regard qui allait du plancher aux charpentes, si vibrant de clarté et de caresse. Le silence continuait, inquiétant. Je pensais que moi seul était la cause de cette gêne, et je me disposais à prendre congé quand Lyra s'écria « Ah, pardon, j'avais oublié !» « Chère madame, permettez-moi de vous présenter Monsieur Jean Mintier, mon ami. » Elle me salua d'un gracieux et câlin mouvement de tête et d'une voix très douce qui me remua délicieusement. Elle me dit « Enchanté, monsieur, Mais je vous connais beaucoup. Pendant que, très rouge, je balbutiais quelques paroles confuses et bêtes, Lyra Narquois intervint. Vous n'allez peut-être pas lui faire croire que vous avez lu son livre. Ah non, je vous demande pardon, monsieur Lyra. Je l'ai lu, il est très bien. Oui, comme mon atelier, comme ma peinture, n'est-ce pas? Ah non, par exemple. Elle dit cela franchement, d'un rire qui s'éparpilla dans la pièce, ainsi qu'un égosillement d'oiseau. Ce rire m'avait déplu. Bien que le timbre en fût sonore et hardi, il tintait faux. Je ne le trouvais pas en harmonie avec l'expression si délicatement triste de cette physionomie. Et puis, il me blessait à l'égard d'une insulte dans mon admiration pour le génie de Lyra. Je ne sais pourquoi il m'eût été doux qu'elle s'enthousiasmât pour ce grand artiste méconnu, qu'elle montrât à cette minute même un jugement hautain, des sensations supérieures à celles des autres femmes. En revanche, les façons méprisantes du peintre, son ton d'amère hostilité, me choquèrent vivement. Je lui en voulais de cette impolitesse affectée, de ce parti pris de grossièreté gamine qui le diminuait à mes yeux, il me semblait. J'étais mécontent et très gêné. J'essayais de parler de choses indifférentes. Il ne me vint à l'esprit aucune idée de conversation. La jeune femme s'était levée. Elle fit quelques pas dans l'atelier, s'arrêta devant les études entassées l'une sur l'autre, en examina deux ou trois d'un air de dégoût. Mon Dieu, monsieur Lara, dit-elle, pourquoi vous obstinez-vous à peindre des femmes aussi laides, aussi drôlement bâties? Oh, si je vous le disais, répliqua Lyra, vous ne comprendriez pas. Merci. Et qu'en faites-vous, mon portrait? Il faut demander ça à monsieur Jacquet ou bien au photographe. Monsieur Lyra, madame, savez-vous pourquoi je suis venue? Pour me débiter des tendresses, je suppose. Oui, d'abord, et puis. Alors nous jouons au petit jeu innocent. C'est fort délicat. Pour vous prier de venir dîner chez moi vendredi, voulez-vous? Vous êtes très aimable, chère madame, mais vendredi précisément, cela m'est tout à fait impossible. C'est mon jour d'institut. Mais que vous avez donc de l'esprit. Charles sera très chagrin de votre refus. Vous lui ferez toutes mes excuses, n'est-ce pas? Eh bien, adieu, monsieur Lyra. On gèle chez vous. En passant devant moi, elle me tendit la main. Monsieur Bintier, je suis chez moi tous les jours de 5 à 7. Je serai charmé de vous voir, charmé. Je m'inclinai, remerciant, et elle partit, laissant dans mes oreilles un peu de la musique de sa voix, dans mes yeux un peu de la douceur de son regard, et dans l'atelier le parfum violent de ses cheveux, de son manteau, de son manchon, de son petit mouchoir. Lyra s'était remise à travailler sans prononcer une parole. Moi, je feuilletais un livre que je ne lisais point. Et sur les pages remuées, passait et repassait sans cesse l'image de la jeune visiteuse. Je ne me demandais pas, certes, quelle impression j'avais gardée d'elle, ni si j'en avais gardé une impression. Mais bien qu'elle se fût en allée, elle n'était pas partie tout entière. Il me restait de cette brève apparition quelque chose d'indécis, comme une vapeur qui aurait pris sa forme, où je retrouvais le dessin de la tête, l'inclinaison de la nuque, le mouvement des épaules, l'ondulation de la taille, et ce quelque chose me hantait. Sur la chaise qu'elle venait de quitter, je la revoyais, incertaine et plus charmante, avec ce sourire tendre, lumineux, qui rayonnait d'elle et lui faisait un halo d'amour. « Qui donc est cette femme? » fis-je tout à coup, et d'un ton que je m'efforçais de rendre indifférent. « Quelle femme? » dit Lyra. Ben, « celle qui sort d'ici, parbleu. » Ah oui, oh mon Dieu, oh, c'est une femme comme les autres. Ben, je pense bien, mais cela ne me dit pas comment elle s'appelle ni qui elle est. Lyra fouillait dans sa boîte de pastel. Il répondit négligemment. Bon, ça vous intéresse donc, vous, de savoir comment une femme s'appelle? Drôle de curiosité. Bon, elle s'appelle Juliette Roux. Quant à des renseignements biographiques, la police des mœurs vous en fournira autant que vous voudrez, j'imagine. Je présume que Mademoiselle Juliette Roux se lève tard, qu'elle se fait tirer les cartes, qu'elle trompe et qu'elle ruine le plus qu'elle peut ce pauvre Charles Malter, un brave garçon. Vous avez rencontré ici quelquefois, dont elle est la maîtresse pour l'instant. Enfin, elle est comme les autres, avec cette aggravation qu'elle est plus jolie que beaucoup, par conséquent plus bête et plus malfaisante. Tenez, ce divan, là où vous êtes, c'est Charles qui l'a démoli à force de se coucher dessus et d'y pleurer des journées entières en me racontant ses malheurs. Comprenez-vous? Un jour, il l'avait surprise avec un croupier de cercle, un autre jour avec un cabot des bouffes. Il y avait aussi une histoire de lutteur de Neuilly à qui elle donnait 20 francs et les vieux pantalons de Charles. C'est plein d'idylles, ainsi que vous voyez. J'aime beaucoup Malter, parce qu'il est bon et que sa bêtise m'attendrit. Il me faisait pitié, vraiment. Mais que dire à des gens comme ça, dont l'amour est la grande affaire de la vie, et qui ne peut voir un autre femme sans y coudre des ailes de rêve et le lancer aux étoiles. Rien, n'est-ce pas? D'autant que le malheureux, au milieu de ses colères et de ses sanglots, tirait vanité de ce que Juliette eût reçu une bonne éducation. Il se vantait, en se tordant les bras de douleur, qu'elle fût sortie, non de la cuisse d'un concierge, mais de celle d'un médecin. Et il montrait des lettres d'elle en insistant sur la correction de l'orthographe et le tour élégant des phrases. Il semblait me dire, comme je souffre et comme c'est bien écrit, quelle pitié! Ah, vous les aimez, les femmes, vous, m'écriai-je quand il eut fini sa tirade. Et bêtement, j'ajoutai, vous direz que vous en avez beaucoup souffert. Lyra haussa les épaules et sourit. Oh, vous parlez comme Monsieur Delaunay de la Comédie-Française. Non, non, mon bon ami, je n'en ai pas souffert. J'en ai vu souffrir les autres, et cela m'a suffi. Comprenez-vous? Soudain, sa voix s'enfla, une lueur presque farouche brilla dans ses yeux. Il reprit. Des gens, des pauvres diables, comme Charles Malter. On leur met le pied sur la gorge, ils disparaissent dans le sang, dans la boue, dans cette boue atroce pétrie des mains de la femme. C'est malheureux, sans doute. Pourtant, l'humanité ne réclame pas, on lui a rien volé. Ben, ils disparaissent et tout est dit. Mais des artistes, des hommes de notre race, des grands cœurs et des grands cerveaux, perdus, étouffés, vidés, tués. Comprenez-vous? Sa main tremblait, il écrasa son crayon sur la toile. Bon, j'en ai connu trois admirables, trois divins. Deux sont morts pendus, l'autre, mon maître à Bicêtre dans un cabanon. De ce pur génie, il ne reste qu'un paquet de chair pâle, une sorte d'animal hallucinant qui grimace et qui hurle l'écume aux dents. Et dans le troupeau des avortés, combien de jeunes espoirs ont succombé sous les serres de la bête de proie? Comptez-les donc, les lamentables, les effarés, les éclopés, ceux-là qui avaient des ailes et qui se traînent sur leurs moignons, ceux-là qui grattent la terre et mangent leurs ordures. Vous-même, tout à l'heure, cette Juliette, vous la regardiez avec extase, vous étiez prêt à tout pour un baiser d'elle. Oh, ne dites pas, non, je vous ai vu. Allez, venez, sortons. C'est fini, je peux plus travailler. Il se leva, marcha dans l'atelier avec agitation. Gesticulant et colère, il bousculait les chaises, les cartons, éventrait les études à coups de pied. Je crus qu'il devenait fou. Ses yeux injectés de sang s'égaraient. Il était tout pâle, et les mots sortaient grinçants par saccades de sa bouche qui se contracta. Être né de la femme des hommes, oh, quelle folie! Des hommes, s'être façonné dans ce ventre impur. Des hommes, s'être égorgé les vices de la femme, de ses nervosités imbéciles, de ses appétits féroces, avoir aspiré le suc de la vie à ses mamelles scélérates. La mer, oh oui, la mer divinisée, n'est-ce pas? La mer qui nous fait cette race de malades et d'épuisés que nous sommes, qui étouffe l'homme dans l'enfant et nous jette sans ongles, sans dents, brutes et indomptés, sur le canapé de la maîtresse et le lit de l'épouse. Lyra s'arrêta un instant, il suffoquait. Puis, rassemblant ses mains et nouant ses doigts crispés dans l'espace, autour d'un cou imaginaire, follement, terriblement, il cria. Mais voilà ce qu'on devrait leur faire à toutes, comprenez-vous, hein, dites, à toutes. Et il recommença à marcher de long en large, jurant, frappant du pied. Mais ce dernier cri de colère l'avait visiblement soulagé. Voyons, mon bon Lyra, lui dis-je, calmez-vous. Que c'est bête de nous faire du mal, et à propos de quoi, je vous prie. Voyons, vous n'êtes pas une femme. Ben, c'est vrai aussi, vous m'avez agacé avec cette Juliette. Qu'est-ce que cela vous regardait, cette Juliette? Et n'est-il pas naturel que je désirasse savoir le nom d'une personne à qui vous m'aviez présenté? Et puis franchement, en entendant qu'on allait inventer une machine autre que la femme pour fabriquer les enfants. En attendant, je suis une brute, interrompit Lyra, qui se rassit un peu honteux devant son chevalet, et d'une voix tout à fait apaisée me demanda « Mon petit maintier, voulez-vous me donner un mouvement pour mon bonhomme? Ça ne vous ennuie pas, 10 minutes seulement. » Joseph Lyra avait 42 ans. Je l'avais connu un soir par hasard, je ne sais plus où. Et bien qu'il ne fût pas ordinairement expansif, bien qu'il eût la réputation d'être misanthrope, insociable et méchant, il me prit tout de suite en affection. N'est-il point affolant de penser que nos meilleures amitiés, qui devraient être le résultat d'une lente sélection, que les événements les plus graves de notre vie, qui devraient être amenés que par un enchaînement logique des causes, ne sont la plupart du temps que le produit instantané du hasard? Vous êtes chez vous, dans votre cabinet, tranquillement assis devant un livre. Au dehors, le ciel est gris, l'air froid, il pleut, le vent souffle, la rue est morose et boueuse. Par conséquent, vous avez toutes les bonnes raisons du monde de ne point bouger de votre fauteuil. Vous sortez, cependant, poussé par un ennui, par un désœuvrement, par vous ne savez quoi, par rien. Et voilà qu'au bout de 100 pas, vous avez rencontré l'homme, la femme, le fiacre, la pierre, la pelure d'orange, la flaque d'eau, qui vont bouleverser votre existence de fond en comble. Au plus douloureux de mes détresses, j'ai souvent pensé à ces choses, et souvent je me suis dit avec quels amers regrets. Pourtant, si le soir où je rencontrais Lyra dans cet endroit oublié où je n'avais que faire assurément, je fusse resté chez moi, à travailler, rêver ou dormir, je serais peut-être aujourd'hui l'homme le plus heureux de la terre, et rien de ce qui m'est arrivé me serait arrivé. Et cette minute d'hésitation banale, cette minute où j'ai dû me demander indifférent, voyons, sortirai-je, ne sortirai-je pas? Cette minute a continué l'acte le plus considérable de ma vie. Ma destinée tout entière a été réglée en 7 minutes brèves, qui dans mes souvenirs n'a pas laissé plus de traces que dans les au ciel le coup de vent qui abat la maison et qui déracine le chêne. Je me souviens des plus insignifiants détails de mon existence. Tenez, je me souviens d'un costume de velours bleu, cela sans par-devant, que je portais le dimanche étant tout petit. Je pourrais, oui, je pourrais, je vous le jure, compter sur la soutane du curé Blanchetière les taches de graisse ou bien les grains de tabac qu'il laissait tomber en humant sa prise. Chose folle et déconcertante. Très souvent, même quand je pleure, même en regardant la mer, même en contemplant le soleil qui se couche sur la plaine émerveillée, je revois, par un retour odieux de l'ironie qui est au fond de nos idéales, de nos rêves et de nos souffrances, je revois, sur le nez d'un vieux garde que nous avions, le père Lejard, une grosse verrue, grumeleuse et comique, avec ses quatre poils qui servaient de perchoir aux mouches. Eh bien, cette minute qui a décidé de ma vie, qui m'a coûté le repos, l'honneur et m'a fait pareil à un chien galeux, cette minute, j'ai beau vouloir la reconstituer, la rétablir à l'aide d'indications physiques et d'impressions morales, je ne la retrouve pas. Ainsi, il s'est passé dans le cours de mon existence un événement formidable, un seul, puisque tous les autres découlent de lui et il m'échappe absolument. J'en ignore l'instant, le lieu, les circonstances, la raison déterminante. Alors que sais-je de moi? Que peuvent savoir les hommes d'eux-mêmes s'ils sont vraiment dans l'impuissance de remonter jusqu'à la source de leurs actions? Rien, rien, rien! Et faudra-t-il donc expliquer les énigmes que sont les phénomènes de notre cerveau et les manifestations de notre soi-disant volonté par la poussée de cette force aveugle et mystérieuse, la fatalité humaine? Mais il ne s'agit point de cela. J'ai dit que j'avais rencontré Lyra un soir par hasard, je ne sais plus où, et que tout de suite il me prit en affection. C'était le plus original des hommes. Par sa tenue sévère, d'une raideur mécanique et magistrale, ayant dans ses allures quelque chose d'officiel, il donnait, au premier abord, la sensation d'une sorte de fonctionnaire articulé, de marionnette orléaniste, telle qu'on en fabrique dans les parlottes pour les guignols des parlements et des académies. De loin, il avait positivement l'air de distribuer des décorations, des bureaux de tabac et des prix de vertu. Cette impression se dissipait vite. Il suffisait pour cela d'entendre, ne fût-ce que 5 minutes, sa conversation nette, colorée, fourmillante d'idées rares, et surtout de subir la domination de son regard, un regard extraordinaire, ivre et froid, tout ensemble, un regard à qui toutes les choses étaient connues, qui entrait en vous, malgré vous, comme une vrille profondément. Je l'aimais beaucoup, moi aussi. Seulement, il ne se mêlait à mon amitié aucune douceur, aucune tendresse. Je l'aimais avec crainte, avec gêne, avec ce sentiment pénible que j'étais tout petit à côté de lui, et pour ainsi dire écrasé par la grandeur de son génie. Bientôt, la blague, qui exprime toujours l'opinion moyenne, dans un jet d'immonde salive, la blague va remplacer très vite la menace des points tendus. Alors, devant les œuvres superbes de Lyra, l'on se tordit en se tenant les côtes à deux mains. Les gens spirituels et gais déposèrent des sous sur le rebord des cadres, comme on fait dans la sébile d'un cul-de-jatte, et ce sport, car c'était devenu un sport pour les hommes du meilleur goût et du meilleur monde, fut trouvé charmant. Dans les journaux, dans les ateliers, dans les salons, les cercles et les cafés, le nom de Lyra servit de terme de comparaison, d'étalon obligatoire dès qu'il s'agissait de désigner une chose folle ou bien une ordure. Il semblait même que les femmes, les filles aussi, ne puissent prononcer qu'en rougissant ce nom réprouvé. Les revues de fin d'année le traînèrent dans les vomissures de leurs couplets. On le chansonna au café-concert. Puis de ces centres de l'intelligence parisienne, il descendit jusque dans la rue où on le revit, fleur populacière, fleurir aux lèvres bourbeuses des cochers, aux bouches crispées des voyous. « Va donc, elle lira !» Ce pauvre Lyra a connu vraiment quelques années de popularité charivari. On se lasse de tout, même de l'outrage. Paris délaisse aussi vite les fantoches qu'il hisse sur le pavois que les martyrs qu'il jette aux gémonies. et dans son cabri de posséder de nouveaux joujoux, il ne s'acharne pas longtemps après le bronze de ses héros et le sang de ses victimes. Et maintenant, le silence se faisait pour Lyra. À peine si de loin en loin, dans quelques journaux, revenait un écho du passé sous la forme d'une anecdote déplaisante. Il avait pris d'ailleurs le parti de ne plus exposer, disant « Bon, laissez-moi donc tranquille. Est-ce que c'est fait pour être vu, la peinture? La peinture, hein, dites, comprenez-vous? On travaille pour soi, pour deux ou trois amis vivants et pour d'autres qu'on n'a pas connus et qui ont mort. Poe, Baudelaire, Dostoïevski, Shakespeare, comprenez-vous? Eh bien, le reste, ben quoi le reste? C'est un bourreau. » Ayant dû restreindre ses besoins au nécessaire, il vivait de peu avec une admirable et touchante dignité. Pourvu qu'il gagnât de quoi acheter des brosses, des couleurs et des toiles, payer ses modèles et son propriétaire et faire chaque année un voyage d'études, il n'en demandait pas plus. L'argent ne le tentait point, et je suis convaincu qu'il ne cherchait pas le succès. Mais si le succès était venu vers lui, je suis convaincu aussi que Lyra n'eût pu résister à la joie si humaine d'en savourer les malfaisantes délices. Quoiqu'il ne voulût pas en convenir, quoiqu'il affectât de braver gaiement l'injustice, il la ressentait plus qu'un autre, et dans le fond, il en souffrait cruellement. Et de même qu'il avait souffert de l'insulte, il souffrit aussi du silence. Une seule fois, un jeune critique publia sur lui dans un journal très lu un article enthousiaste et ronflant. L'article était rempli de bonnes intentions, de banalités et d'erreurs. On voyait que son auteur n'était pas très familier avec les choses de l'art et qu'il ne comprenait rien au talent du grand artiste. « Vous avez lu ?» s'écria Lyra. « Vous avez lu, hein, dites ?» Ces critiques, quel crétin! À force de parler de moi, vous verrez qu'ils m'obligeront à peindre dans une cave, comprenez-vous? Est-ce qu'ils me prennent pour un vulgarisateur? Et puis qu'est-ce que ça le regarde, celui-là, que je fasse de la peinture, des bottes ou des chaussons de lisière? C'est de la vie privée, ça! Pourtant, il avait rangé l'article précieusement dans un tiroir, et plusieurs fois je le surpris le relisant. Il avait beau dire avec un suprême détachement, quand nous nous emportions contre la bêtise du public, « Eh bien quoi, vous voudriez peut-être que le peuple fît une révolution, parce que je peins en clair ?» Ce dédain de la notoriété, cette résignation apparente, masquait de sourdes rancœurs. Au fond de cette âme très tendre, très généreuse, s'étaient accumulées des haines formidables qui débordaient en verves terribles et méchantes sur tout le monde. Si son talent y avait gagné en force, en âpreté, son caractère y avait perdu un peu de sa noblesse originelle, son esprit critique de sa pénétration et de sa netteté. Il lui arrivait de se livrer à des énormités de débinage qui risquaient de le rendre odieux parfois. C'était des enfantillages qui lui donnaient une pointe de ridicule. Les grands esprits ont presque toujours de petites faiblesses. C'est une loi mystérieuse de la nature. Et Lyra n'échappait point à cette loi. Il tenait avant toute chose à sa réputation bien établie d'homme méchant. Il supportait très bien qu'on lui déniât le talent, mais qu'on lui contestât la propriété de faire remuer, trembler l'humanité d'un coup de langue, voilà ce qu'il n'eût jamais toléré. Pour se venger des mots sanglants dont il les marquait, les ennemis de Lyra lui attribuaient des vices contre nature. D'autres simplement le disaient épileptique. Et ces calomnies grossières et lâches, fortifiées chaque jour de commentaires ingénieux, entretenu d'histoires certaines qui faisaient le tour des ateliers, trouvait des bonnes volontés admirablement disposées, celle-ci par sa propre rancune, celle-là par les seules inconséquences du langage du peintre, à les accueillir et à les répandre. Vous savez, Lyra, il a eu encore une attaque hier dans la rue, cette fois. Et l'on citait les noms de personnes graves, de membres de l'Institut, qui avaient assisté à la scène et qui l'avaient vu, barbouillé d'écume, se rouler dans la boue en aboyant. La journée finissait. Le long de la cité Rodrigue, on entendait les portes claquer, des pas s'éloigner vite sur la chaussée, et dans les ateliers, des voix s'élevaient qui chantaient la bonne tâche terminée. Depuis qu'il s'était remis à son dessin, Lyra ne m'avait adressé la parole que pour rectifier la pose que je gardais mal à son gré. « La jambe plus par ici. Encore, voyons. Oh, la poitrine moins effacée. Pardon, mais vous posez comme un cochon, mon cher Mintier. » Il travaillait, un peu fébrile, un peu haletant, mâchelant sans cesse sa moustache, laissant parfois échapper un juron. Son crayon mordait la toile avec une sorte de hâte inquiète, de nervosité colère. « Eh zut ! » cria-t-il en repoussant son chevalet d'un coup de pied. « Oh, je fais que des saloperies aujourd'hui. Le diable m'emporte, on dirait que je concours pour la médaille d'honneur. » Reculant sa chaise, il examina son dessin d'un air agacé et grommela. « Oh, quand il vient des femmes ici, c'est toujours la même histoire. Les femmes, je crois qu'elles vous laissent en partant l'homme de boulanger dans la belle pâte d'Enner. D'Enner, comprenez-vous ? Allons-nous-en. » Comme nous nous trouvions au bas de la cité, « Et venez donc dîner avec moi, Lyra, lui dis-je. »« Non, me répondit-il d'un ton sec en me tendant la main. » Et il s'éloigna, raide, compassé, solennel, de l'allure administrative d'un député qui vient de discuter le budget. Ce soir-là, je ne sortis point et restai seul chez moi à rêvasser. Allongé sur un divan, les yeux mi-clos, le corps engourdi par la chaleur, sommeillant presque, j'aimais à retourner dans le passé, à ranimer les choses mortes, à battre le rappel des souvenirs enfuis. 5 années s'étaient écoulées depuis la guerre, cette guerre où j'avais commencé l'apprentissage de la vie par le désolant métier de tueur d'hommes. 5 années déjà. C'était d'hier pourtant, cette fumée, ces plaines couvertes de neige rougie et de ruines, ces plaines où, spectres de soldats, nous errions, les reins cassés lamentablement. 5 années seulement. Et quand je rentrais au prieuré, la maison était vide. Mon père était mort. Mes lettres ne lui parvenaient que rarement, à de longs intervalles, et c'était chaque fois des lettres courtes, sèches, écrites à la hâte sur le coin de mon sac. Une seule fois, après la nuit de terrible angoisse, j'avais été tendre, affectueux. Une seule fois, j'avais laissé déborder tout mon cœur, et cette lettre qui lui eût apporté une douceur, une espérance, un réconfort, il ne l'avait pas reçue. Tous les matins, m'avait confié Marie, il allait à la grille, une heure avant l'arrivée du facteur, et en proie à des transes mortelles, il attendait, guettant le tournet de la route. De vieux bûcherons passaient, se rendant à la forêt. Mon père les interpellait. « Hé, père Ribaud, vous n'avez pas rencontré le facteur, par hasard ?»« Parguez-le, monsieur Mintier. C'est comme de bonne heure, aussi. » « Mais non, père Ribaud, il est en retard. »« Oh, ça se peut bien, monsieur Mintier, ça se peut bien. » Lorsqu'il apercevait le képi et le collet rouge du facteur, il devenait pâle, révolutionné par la terreur d'une mauvaise nouvelle. À mesure que celui-ci s'approchait, le cœur de mon père battait à se rompre. « Rien que des journaux aujourd'hui, monsieur Mintier. »« Comment, pas de lettres encore ? Tu dois te tromper, mon garçon. Cherche, cherche bien. » Il obligeait le facteur à fouiller dans sa boîte, à déficer les paquets, à les retourner. « Rien, mais c'est incompréhensible. » Et il rentrait à la cuisine, s'affaissait dans son fauteuil en poussant un soupir. « Songe, disait-il à Marie, qui lui tendait alors un bol de lait, « songe, Marie, si sa pauvre mère avait vécu. » Dans la journée, au bourg, il visitait les gens qui avaient des fils à la guerre, et les conversations étaient toujours les mêmes. « Eh bien, avez-vous des nouvelles du petit gars ?»« Mais non, monsieur Mathieu, et vous-même de monsieur Jean ?»« Ben moi non plus. » « C'est bien curieux, tout de même. Comment que ça se fait, dites? Pouvez-vous ça ?» Quoiqu'ils n'eussent point de lettres, eux, ils ne s'en étonnaient qu'à demi. Mais que M. Mainthier, M. le maire, n'en reçut pas davantage, cela les surprenait beaucoup. On faisait les suppositions les plus extraordinaires. On s'y livrait à des commentaires ahurissants des informations données par le journal. On consultait les anciens soldats qui racontaient leur campagne avec des détails extravagants et prodigieux. Et au bout de 2 heures, on se séparait, l'esprit plus tranquille. « Vous tourmentez pas, monsieur le maire. Votre fille reviendra pour sûr, colonel. »« Colonel, colonel, disait mon père en secouant la tête. Je n'en demande pas tant, qu'ils reviennent seulement. » Un jour, on ne sait jamais comment cela fut arrivé, Saint-Michel se trouva plein de soldats prussiens. Le prieuré fut envahi. Il y eut de grands sabres qui traînèrent dans notre vieille demeure. À partir de ce moment, mon père devint plus souffrant. La fièvre le prit, il s'alita, et dans son délire, il répétait sans cesse « Attelle, Félix, attelle, parce que je vais aller à Alençon pour chercher des nouvelles de Jean. » Il se figurait qu'il partait, qu'il était en route. « Allez, allez, Bichette, allez, psit, nous aurons ce soir des nouvelles de Jean, allez, allez, psit !» Et mon pauvre père, doucement, s'éteignit entre les bras du curé Blanchetière, entouré de Félix et de Marie qui sanglotaient. Après 6 mois passés dans ce prieuré, plus triste que jamais, je m'ennuyais à périr. La vieille Marie, habituée à conduire la maison à sa fantaisie, m'était insupportable. En dépit de son dévouement, ses manies m'exaspéraient, et c'était à toutes les minutes des discussions où je n'avais pas toujours le dernier mot. Pour unique société, le bon curé qui ne voyait rien de si beau que le notariat, et dont les sermons radoteurs m'agaçaient. Du matin au soir, il me chapitrait sans cesse. « Ton grand-père est un notaire, ton père, tes oncles, tes cousins, toute la famille, enfin. Tu te dois à toi-même, mon cher enfant, de ne pas déserter ce poste. Tu seras maire de Saint-Michel. Tu peux même espérer de remplacer ton pauvre père au Conseil général dans quelques années. » « Sapristi, c'est quelque chose, cela. Et puis je te réponds, les temps vont devenir diablement durs aux braves gens qui aiment le bon Dieu. Tu vois ce brigand de Lebec, le voilà du conseil municipal. Il ne rêve que de piller et d'assassiner cette canaille-là. Nous avons besoin, à la tête du pays, d'un homme bien pensant, qui soutienne la religion et défende les bons principes. » Paris, Paris, oh, c'est tête folle de jeunes gens. Mais veux-tu me dire, sacré matin, ce que tu as fait de beau à Paris? L'air est malsain, par là. Et regarde le grand Bourget, il est de bonne famille pourtant, ça n'a pas empêché d'en venir avec un béret rouge. Voilà-t-il pas une belle affaire? Et il continuait de la sorte pendant des heures, reniflant sa prise, agitant le spectre rouge du béret du grand Mauger, qui lui paraissait plus redoutable que les cornes du démon. Que faire à Saint-Michel? Personne à qui communiquer mes idées, mes rêves. Pas un foyer de vie ardente où dépenser cette activité intellectuelle, ce désir impérieux de savoir et de créer que la guerre, en développant mes muscles, en fortifiant mon corps, avait mis en moi, et que des lectures passionnées surexcitait chaque jour davantage. Je comprenais que Paris seul, qui m'avait tant effrayé jadis, pouvait fournir un aliment aux ambitions encore incertaines dont j'étais tourmenté, et les affaires de la succession terminées, l'étude vendue brusquement, j'étais parti, laissant le prieuré à la garde de Félix et de Marie. Et me voici de retour à Paris. Depuis 5 années, qu'y ai-je fait de bon, suivant l'expression du curé? Porté par des enthousiasmes vagues, par des exaltations confuses, qui mêlaient je ne sais quel archibérique à je ne sais quel impossible apostolat, où donc suis-je arrivé? Je ne suis plus l'enfant timide que les valets de pied dans un vestibule plein de lumière mettaient en déroute. Si je n'ai pas acquis beaucoup d'aplomb, du moins je sais me tenir dans le monde sans y paraître trop ridicule. Je passe à peu près inaperçu, ce qui est la meilleure condition que puisse souhaiter un homme de ma sorte, qui ne possède aucun désagrément et qualité extérieure qu'il faut pour y briller. Très souvent, je me demande ce que je fais là, en ce milieu qui n'est pas le mien, où l'on a de respect que pour le succès, si charlatanesque qu'il soit, que pour l'argent, de quelques centimes qu'il vienne, où chaque parole dite met une blessure dans ce que j'aime le mieux, dans ce que j'admire le plus. D'ailleurs, l'homme n'est-il pas le même partout, avec des différentes éducations qui s'accusent seulement dans les gestes, dans la manière de saluer, dans le plus ou moins de liberté d'allure? Quoi? C'était cela, ces fiers artistes, ces admirables écrivains dont on chante la gloire, dont on célèbre le génie? Cela, ces êtres petits, vulgaires, affreusement cuistres, singeant les façons des mondains qu'ils raillent, d'une vanité burlesque, d'une jalousie féroce, à plat ventre aussi devant l'argent, adorant les genoux dans la poussière, la réclame, cette vieille gueuse qu'ils hissent sur des peluches extravagantes. Oh, que j'aime mieux les bouviers et leurs bœufs, les porches et leurs porcs. Oui, ces porcs ronds roses, qui s'en vont fouir la terre du groin et dont le dos gras et lisse reflète le nuage qui passe. J'ai lu énormément, sans discernement, sans méthode, et de ces lectures dépareillées, il ne m'est resté dans l'esprit qu'un chaos de faits tronqués et d'idées incomplètes, au milieu duquel je ne saurais me débrouiller. J'ai tenté de m'instruire de toutes les façons, et je m'aperçois que je suis aussi ignorant aujourd'hui qu'autrefois. J'ai eu des maîtresses que j'ai aimées 8 jours, des blondes sentimentales et romanesques, des brunes farouches, impatientes du baiser, et la blonde m'a montré que le vide effroyable du cœur de l'homme, le trompe-l'œil des tendresses, le mensonge de l'idéal, le néant du plaisir. Croyant m'être arrêté à la formule d'art définitive, par laquelle j'allais étreindre mes aspirations, fixer mes rêves palpitants, vivants, sur l'épingle des mots, j'ai oublié un livre dont on a parlé avec éloquence et qui s'est bien vendu. Certes, j'ai été flatté de ce petit succès. Moi aussi, je m'en suis paré orgueilleusement, comme d'une chose rare. Moi aussi, j'ai pris des airs supérieurs afin de mieux tromper les autres. Et, voulant me tromper moi-même, souvent, chez moi, je me suis regardé dans la glace avec une complaisance de comédien pour découvrir en mes yeux, sur mon front, dans le port auguste de ma tête, les signes certains du génie. Hélas, le succès m'a rendu plus pénible encore l'infime constatation de mon impuissance. Mon livre ne vaut rien. Le style en est torturé et la conception enfantine. Une déclamation violente, une phraséologie absurde, y remplace l'idée. Parfois je relis des passages applaudis par la critique, et j'y retrouve de tout, de l'Herbert Spencer et du Scribe, du Jean-Jacques Rousseau et du Commerson, du Victor Hugo, du Poe et de l'Eugène Chavette. De moi, dont le nom s'étale en tête du volume, sur la couverture jaune, je ne retrouve rien. Suivant les caprices de ma mémoire, les hantises de mes souvenirs, je pense avec la pensée de l'un, j'écris avec l'écriture de l'autre. Je n'ai ni pensée ni style qui m'appartiennent. Et des gens graves, dont le goût est sûr, dont le jugement fait loi, ont loué ma personnalité, mon originalité, l'imprévu et le raffinement de mes sensations. Que cela est donc triste! Où je vais, je l'ignore aujourd'hui comme je l'ignorais hier. J'ai cette conviction que je ne puis être un écrivain, car l'effort dont j'étais capable, tout l'effort, je l'ai donné en cette œuvre misérable et décousue. Si j'avais au moins une ambition bien vulgaire, bien basse, des désirs ignobles, les seuls qui ne laissent pas de remords, l'amour de l'argent, des honneurs officiels, de la débauche. Mais non! Une seule chose me tente à laquelle je n'atteindrai jamais, le talent. Me dire, oh oui, me dire, ce livre, ce sonnet, cette phrase sont de toi, tu les as arrachés de ton cerveau, gonflés de ta passion, ta pensée tout entière y frémit, elle secoue sur les pages douloureuses des morceaux de ta chair et des gouttes de ton sang, tes nerfs y résonnent comme les cordes du violon sous l'archet d'un divin musicien. Ce que tu as fait là est beau et grand. Puis, cette minute de joie suprême, mais je sacrifierais ma fortune, ma santé, ma vie, je tuerais. Et jamais je me dirais cela, jamais. Ah, l'impossible sérénité! Ah, l'éternel contentement de soi-même, des médiocres, que je les ai enviés. Maintenant, il me vient des rages furieuses de retourner à Saint-Michel. Je voudrais pousser la charrue dans le sillon brun, me rouler dans les jaunes luzernes, sentir les bonnes odeurs des étables, et puis surtout me perdre, oh, me perdre au fond des taillis, loin, bien loin, plus loin, toujours. Le feu s'était éteint et ma lampe charbonnait. Un froid léger comme une caresse m'envahissait les jambes, courait sur mes reins avec de petits frissons délicieux. Du dehors, aucun bruit ne m'arrivait. La rue devenait silencieuse. Depuis longtemps déjà, je n'entendais plus les lourds omnibus rouler sur la chaussée. Et la pendule sonna 2 heures. Mais une paresse me retenait cloué sur mon divan. À être ainsi étendu, je jouissais d'un grand bien-être physique, dans un grand accablement moral. Je dus faire de sérieux efforts pour m'arracher à cette langueur et regagner enfin ma chambre. Il me fut impossible de m'endormir. À peine avais-je clos les paupières, qu'il me semblait que j'étais précipité dans un trou noir très profond. Et brusquement, je me réveillais haletant, la sueur au front. Je rallumais ma lampe et essayais de lire. Mon attention ne parvenait pas à se fixer sur les lignes du livre qui se dérobaient, s'entrecroisaient, se livraient sous mes yeux à une danse fantastique. Quelle vie stupide que la mienne, pensais-je. Les jeunes gens de mon âge rient, chantent, ils sont heureux, insouciants. Et pourquoi donc suis-je aussi rongé par d'odieuses chimères? Mais qui donc m'a mis au cœur cette plaie mortelle de l'ennui et du découragement? Devant eux, un vaste horizon illuminé de soleil, et moi, je marche dans la nuit, arrête sans cesse par des murs qui me barrent la route et contre lesquels je me cogne en vain le front et les genoux. C'est qu'ils ont la bourre, peut-être. Aimer, ah oui, si je pouvais aimer. Et je revis, qui descendait du ciel, la belle Vierge de Saint-Michel, la radieuse Vierge de plâtre, avec son menton constellé d'argent et son nimbe d'or. Tout autour d'elle, les astres tournaient, s'inclinaient, pareils à des fleurs célestes, et des colombes, ivres de prières, volaient en la frôlant de leurs ailes. Je me rappelais les extases, les transports d'adoration mystique où elle me ravissait, toutes les joies si douces que j'avais éprouvées rien qu'à la contempler. Ne parlait-elle pas aussi là-bas dans la chapelle? Et ce langage inexprimé qui coulait dans mon âme d'enfant, des tendresses ineffables, ce langage plus harmonieux que la voix des anges et le chant des harpes d'or, ce langage plus parfumé que le parfum des roses, ce langage n'était-il point le langage divin de l'amour? À mesure que j'écoutais de tous mes sens ce langage qui était une musique, j'étais enlevé dans un monde inconnu et merveilleux, et une féerique vie nouvelle germait, éclatait, florissait autour de moi. L'horizon se reculait jusqu'à l'infini du mystère. L'espace resplendissait comme un intérieur de soleil. Et moi-même, je me sentais devenu si grand, si fort, que d'un seul embrassement, j'étreignais sur ma poitrine tous les êtres, toutes les fleurs, toutes les nuées de ce paradis, né du regard d'amour qu'avait échangé une vierge de plâtre et un petit enfant. « Vierge, bonne vierge !» m'écriai-je. « Parle-moi, parle-moi encore, comme jadis tu me parlais dans la chapelle, et redonne-moi l'amour, puisque l'amour c'est la vie, et que je meurs de ne pas pouvoir plus aimer. » Mais la vierge ne m'entendait plus. Elle glissa dans la chambre en faisant des révérences, grimpa sur les chaises, furetta dans les meubles en chantant des airs étranges. Une capote de loutre remplaçait maintenant son âme dorée. Ses yeux étaient ceux de Juliette Roux, des yeux très beaux, très doux, qui me souriaient dans une face de plâtre, sous un voile de gaze fine. De temps en temps, elle s'approchait de mon lit, balançait au-dessus de moi son mouchoir brodé, qui exhalait un parfum violent. « Monsieur Mathieu, disait-elle, je suis chez moi tous les jours, de 5 à 7, et je serai charmée de vous voir, charmée. « Vierge, bonne vierge, implorai-je de nouveau, parle-moi, je t'en prie, parle-moi comme autrefois dans la chapelle. « Tu, 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 » chantait la vierge qui faisait bouffer sa robe lilas, écartant du bout de ses doigts effilés et chargés de bagues, son manteau constellé d'argent, se mit à tourner lentement avec des mouvements de valse, la tête renversée sur les épaules. « Bonne vierge !» répétai-je d'une voix irritée, « mais parle-moi donc !» Elle s'arrêta, se campa devant moi, fit tomber un à un ses vêtements de plâtre et, toute nue, impudique et superbe, la gorge secouée d'un rire clair, sonore, précipité. « Monsieur Mentier, dit-elle, je suis chez moi tous les jours, de 5 à 7, et je vous donnerai les vieux pantalons de Charles. » Et elle me lança sa capote de loup dans la figure. Je m'étais dressé sur mon lit. Les yeux hébétés et la poitrine sifflante, je regardais. Mais la chambre était calme, la lampe continuait de brûler mélancoliquement, et mon livre gisait sur le tapis, les pages en l'air.